Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir, Théo. Vous allez bien ce début de semaine? Moi, je suis ravie de vous voir aujourd'hui parce que... c'est bientôt la fête des mères, donc ouais, on a préparé une spéciale fête des mères. Alors, par contre, on fête les Ferdinand aujourd'hui. Voilà, Ferdinand, donc, ouais. Bon, je ne connais pas beaucoup.
Moi non c'est, plus, c'est un très vieux prénom.
C'est un vieux prénom, donc bon, peut-être que ça va revenir à la mode, mais enfin bon,
oui, c'est vrai.
Faut avoir envie hein, pour appeler son fils Ferdinand. Bon, on ne dit rien, bon. C'est un vieux prénom, donc vous faites que... Mais bonne fête à tous les Ferdinand.
Exact. Voilà.
Que vous connaissez, bien évidemment, ou qu'on vous, on ne connaît pas. Moi, j'en connais aucun. Si, il y avait la vache Ferdinand. Non, c'est pas... Il n'y a pas un dessin animé où il y avait une vache Ferdinand. Non, c'est, je suis en plein délire, là.
Fernande ?
Non, non, Ferdinand. Non, non, ah. ça, tu parles de... Fernandelle. C'était Fernande, non, non, la vache du prisonnier. Non, non, bon, écoute, bon, ceci, allez. Allez, notre parenthèse va se refermer sur des nouvelles recettes. Donc aujourd'hui, aussi délicieuses et faciles, que, donc spéciale fête des mères, que les enfants pourront facilement réaliser, accompagnés d'un adulte quand même, parce qu'on ne sait jamais, ou encore de la grande sœur ou du grand frère.
Oui, voilà.
Hein. Bref, bon, des belles recettes ce soir à faire ensemble. Voilà, je vous donnerai des astuces comme à l'habitude par rapport, enfin, on verra. C'est pas, enfin, là, ce sera carrément du direct parce que j'ai pas préparé d'astuces, mais ça viendra peut-être autour, tout au long de l'émission. Nathalie, par contre, interviendra sur des histoires et puis sur quelque chose qui peut vous intéresser, c'est le degré Celsius. Eh bien oui, parce que on n'en parle pas, mais et on sait pas forcément d'où ça vient. Donc, émission spéciale, donc déroulée spéciale. Ce soir, je ne donne pas les recettes tout de suite, je vais les donner au fur et à mesure. Voilà, donc Nathalie, par contre, je suis certaine que tu as encore des histoires. Et depuis quand on fête la fête des mères et pourquoi, Nathalie?
Alors, déjà, dimanche 4 juin, nous célébrons la fête des mères. C'est l'occasion d'offrir des cadeaux, des fleurs et des gâteaux en l'honneur de toutes les mamans. Cette fête est généralement organisée à la fin du mois de mai ou début juin, en France en tout cas. Mais savez-vous quand a été créée cette tradition? Non, c'est une tradition très ancienne. Déjà, dans l'Antiquité, les Grecs rendaient hommage à Rhéa, c'était la mère de Zeus, et déesse de la maternité. Cette coutume a ensuite été reprise par les Romains qui organisaient des festivités en l'honneur des mères de famille chaque 1er mars durant les Matronalia. Avec l'avènement du christianisme, les fêtes païennes tombent peu à peu en désuétude. Puis la célébration réapparaît au 15e siècle en Angleterre grâce au Mothering Sunday, ça veut dire le dimanche des mères, quelque temps avant de connaître un essor dans le monde entier. Et dans l'imagerie populaire, la fête des mères reste associée au collier de nouilles et au bouquet des écoliers. Mais il n'en a pas toujours été ainsi en France. Napoléon, en 1806, est le premier à évoquer l'idée d'une fête des mères officielle au printemps. En 1897, l'Alliance nationale contre la dépollution la transforme en fête des enfants. Cette journée est censée mettre à l'honneur l'importance de la fécondité et de la famille dans le pays. Le maréchal Pétain ne l'a pas inventée. Voilà, la première fête des mères version moderne émerge à Arthas, c'est en Isère, en 1906, lors d'une cérémonie où sont récompensées les mères de famille nombreuses. La tradition prend de l'ampleur après la Première Guerre mondiale. À Lyon, le 16 juin 1918, le colonel de la Croix-Laval instaure la première journée des mères officielle. Il s'agit de rendre hommage aux femmes ayant perdu un fils ou un mari dans les tranchées. En 1920, une journée nationale des mères de familles nombreuses voit le jour. La fête s'inscrit dès lors dans le calendrier annuel, mais il faudra attendre avril 1926 pour que la première cérémonie nationale ait lieu. Et ce n'est qu'à la suite de tout cela qu'intervient le maréchal Pétain, à qui l'on attribue souvent à tort l'invention de la fête des mères. Le 25 mai 1941, sous le régime de Vichy, il officialise la journée nationale des mères et la met à profit pour rebâtir le pays. Dans la loi depuis 1950, dernier volet de l'histoire de cette fête populaire en France, l'inscription de la fête des mères dans la loi, le 24 mai 1950, le président de la République, Vincent Auriol, fixe la date au dernier dimanche de mai dans un article du Code de l'action sociale et des familles. Le texte précise que la fête doit être reportée au premier dimanche de juin si la date originelle coïncide avec la Pentecôte.
Qui se passe en fin de compte cette année. Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait que le 4 juin. Alors, on a fait un message au départ, hein, donc c'est bouquet de fleurs, gâteaux,
collier de nouilles.
Donc si nos enfants nous écoutent, et je pense qu'ils nous écoutent, n'oubliez pas, donc évitez les colliers de nouilles. Moi,
c'est bon quand ils étaient petits.
Voilà, hein, donc je les ai encore, les colliers de nouilles. Si un jour il y a une famine, je pourrais les prendre pour les manger. Voilà, donc c'est bien. Mais c'est quand même une belle histoire quand même. Hein. On a eu du mal à mettre en place cette fameuse fête des mères. Bon, et on verra, je crois que c'est dans le 27 mai, je crois que c'est la fête des pères, donc on verra ce moment-là. Peut-être que je préparerai une spéciale fête des pères. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en aient pas.
Ah, hein. Bien sûr.
Hein, sinon, on fera faire des jaloux. Alors, on va faire déjà une première pause et puis on va poursuivre notre émission après. À tout de suite.
Peut-être que dans 10 ans il n'y aura plus de forêt. Peut-être que la mer se sera évaporée. Peut-être que on essaiera de changer d'air. Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire.
Peut-être que on a déjà perdu le combat. Peut-être que on aura tous une puce dans le bras. Peut-être que plus personne dira le mot merci. Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie.
Les secondes sont plus longues. Quand on a la tête sous l'eau, est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière, dernière, dernière. Ça peut pas être la dernière.
Dernière clope pour un dernier souci, un dernier anniversaire pour une dernière bougie, une dernière ensemble, une dernière avec toi, une dernière nouveauté, une dernière première fois.
T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu, c'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure, on n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli. Dis-moi qui croire, si même l'espoir croit pas en lui, tout est petit du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge. Je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante.
Les secondes sont plus longues. Quand on a la tête sous l'eau, est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière.
Vous n'avez pas des os en verre, vous pouvez vous cogner à la vie.
Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Ça peut pas être la dernière. Dernière. Ça peut.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et puis nous allons voir ensemble la première recette. Donc qui est les petits pains au lardon et comté. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 500 grammes. Alors ça va faire quelques petits pains. Hein, donc,
oui, parce que 500 grammes de farine.
Oui, mais bon, ma recette était comme ça. Après, vous divisez. Hein,
oui, bien sûr.
Faites que 250, ça suffira bien.
Après, hein. Les gens peuvent très bien tout diviser par deux.
Oui, oui, hein? Oui, tout à fait. Donc 500 grammes de farine, on a 250 millilitres d'eau tiède, un sachet de levure de boulangère,
à pain, pour le pain.
Pour le pain.
Oui, c'est donc, pas de la levure chimique. Hein,
non,
c'est
non,
la
c'est pas du tout la même. Hein. Okay. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 100 grammes de comté et 150 grammes de lardon. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une spatule, d'une cuillère en bois, d'un saladier, du film étirable, d'une plaque à l'air au four, d'un papier cuisson et d'une assiette de service. Voilà, pensez qu'il vous faudra quand même 30 minutes de préparation et 50 minutes de repos avec 15 minutes de cuisson. Donc 15 minutes, c'est pas grand-chose, c'est normal puisque c'est des petits pains. Donc, en premier, nous allons préchauffer notre four à 200 degrés, tranquillement, 200 degrés, donc je vous rappelle, c'est le thermostat 7-8. Et puis, dans un saladier, on va mélanger la farine, la levure, l'eau, le sel, donc dans ce sens-là. Il faut éviter que le sel rencontre la farine. Rencontre la levure, parce qu'en fin de compte, si la levure commence à être mélangée à l'eau et qu'elle touche le sel, eh ben vous n'aurez pas une pâte qui va se lever.
Ah d'accord.
Voilà, donc bien souvent, on a tendance à mettre... vous mélangez... Alors, le mieux, c'est de mélanger la farine, la levure et l'eau ensemble... D'accord, vous faites une petite bouillie et après vous la mélangez à la farine et après vous rajoutez le sel.
J'ai une petite question là,
dis-moi.
Je suis en train de ça m'interpelle. Est-ce qu'il ne faut pas attendre quand même pour préchauffer le four? Parce que je vois 30 minutes de préparation et 50 minutes de repos. Est-ce qu'on ne préchauffe pas le four
Tu peux, oui.
Avant la fin du repos.
Tu as raison, oui. Donc, on ne va pas préchauffer tout de suite, tu as raison. On va attendre et en fin de compte, c'est à la fin des 50 minutes de repos. Mais ça, donc, on va suivre. Donc, vous effacez notre préchauffage. donc de 200 degrés, je vous le redirai de toute manière un petit peu plus loin, comme ça vous fera un repère. Donc, on va mélanger cette farine avec la levure, l'eau et le sel, avec une spatule ou encore mieux, c'est à la main. Moi, je préfère, avec des mains propres, bien évidemment. Je vous ai dit le risque hein, de ne pas toucher le sel. Le sel ne doit pas toucher la levure dans un premier temps, parce que sinon, ça risque de ne pas pousser. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Hein. Les gens disent, ah ben oui, ça n'a pas poussé. C'est certainement parce que la levure, c'est pas une question. Alors, les gens pourront vous dire que c'est une question aussi de, que c'est trop froid. Alors, il faut que l'eau soit à température ambiante et la levure, vous la mettez, elle est au frigo, vous la laissez un peu sortie, un peu avant, que tous vos aliments, en fin de compte, soient à température ambiante. C'est quand même mieux et comme ça, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Donc on va une fois que ce mélange est fait, on va laisser cette pâte dans le saladier et on va la recouvrir ou d'un linge ou d'un film étirable et puis on va laisser lever 50 minutes. Alors si c'est 30 minutes, c'est bien dans un endroit qui est un peu tiède. Donc en ce moment, il n'y a pas de souci, vous le mettez dans une pièce à 22, 23 degrés comme il fait bon, c'est bien. Faut pas que, si c'est dans une véranda, vaut mieux éviter le côté soleil. Voilà, mettez-les là plutôt à l'ombre. Mais c'est 50 minutes dans... voilà, laissez-la gonfler, 50 minutes, c'est bien. Et une fois que c'est levé, là, vous mettez à préchauffer votre four, puisqu'on va retravailler la pâte. Donc, on va ajouter... donc, une fois que la pâte, elle est levée, on ajoute le fromage, les lardons, et on va travailler jusqu'à ce qu'elle devienne un petit peu élastique. Donc le fromage il sera râpé, les lardons en petits morceaux c'est plus simple et c'est plus facile à manger. Une fois que vous avez façonné les 15, donc ça vous donne 15 petites boules, d'accord ? L'ensemble de la pâte ça vous donne 15 petites boules individuelles. Vous les disposez sur une plaque au four et vous les recouvrez, la plaque au four recouverte d'un papier de cuisson. Moi, je mets toujours une papier cuisson, comme ça, ça évite que ça accroche, parce que si tant soit peu, c'est un peu humide. Vous laissez. Alors, vous allez me dire, oui, mais le four, eh ben, vous le mettez pas loin de votre four. Comme ça, si jamais ils n'ont pas gonflé au bout de 50 minutes, pendant les 30 minutes du gonflement, ben, ça aura un peu chauffé. C'est vrai que ça fait de l'électricité en plus, mais c'est pas grand chose, 30 minutes de chauffe. Sinon, vous laissez gonfler pendant 30 minutes et 10 minutes avant la fin de la pousse, ben, vous allumez votre four. Voilà. Voilà. Il faut que ça soit quand même un endroit chaud, sans courant d'air. Ça, c'est important, parce que si vous avez un courant d'air assez important, ben, votre pâte, elle va redescendre, en fin de compte.
D'accord.
Donc, c'est important de faire une deuxième pousse. Vous pouvez aussi les mettre toute une nuit à gonfler au frigo. Vous verrez, c'est assez impressionnant, parce que même au frigo, ça pousse.
D'accord.
Voilà. Donc, et ça prendra plus de force. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je veux que ça aille vite. Donc, on fait une pousse de 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, on les glisse dans le four qui est chaud. Donc, je vous rappelle, la température, c'est 200 degrés. Donc, thermostat 6 et 8. Et on va les cuire pendant une quinzaine de minutes. Une fois que ils sont cuits, on va attendre un petit peu qu'ils refroidissent et on va les mettre dans une belle, un beau plat de présentation. Voilà, ou une panière.
J'ai une question. Oui. J'ai toujours des questions.
Oui, oui, mais je te sens arriver.
Les lardons, on les met crus.
Oui.
On les fait pas cuire avant.
Oui, oui. Et on met pas d'eau, parce que je vois les auditeurs, oui, quand on fait des petits pains, quand on fait du pain, on met de l'eau dans le lèche frite et le lèche frite.
Ah, c'est pour
et en fin de compte, ouais. Non, pas là-dessus. D'accord. Pas là-dessus. Voilà, on va les laisser tranquillement cuire à 200 degrés. Voilà, ben Nathalie, le maître du temps, d'où vient ce degré Celsius?
Oui,
qu'il y a dans nos fours.
Oui, dans les nôtres, parce que ce n'est pas le cas partout.
Oui.
Le degré Celsius, c'est le symbole, vous le connaissez, hein, c'est l'unité de l'échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international. Elle a été introduite le 25 décembre 1948, et son nom, c'est une référence à l'astronome et physicien suédois Anders Celsius, l'inventeur en 1742 d'une des premières échelles centigrades de température. Cette unité de mesure est d'usage courant à travers le monde, à l'exception des États-Unis, qui ne font pas comme tout le monde, eux c'est les Fahrenheit je crois, du Belize et des îles Caïmans qui l'utilisent encore l'échelle Fahrenheit, donc il y a les États-Unis, le Belize et les îles Caïmans. Et pour l'historique des échelles centigrades qui ont précédé le degré Celsius, voire degré centigrade, lors de la 9e conférence générale des poids et mesures en 1948, le comité international tranche entre les trois termes, degré centigrade, degré centésimal et degré Celsius, en faveur de ce dernier. Le degré centésimal désigne aussi un angle plan égal au 1/400 d'un cercle. Et c'est l'un des synonymes de grade ou jonc. Le degré Celsius est la seule unité métrique dont le nom comporte une majuscule. Les préfixes lui sont appliqués normalement. On peut donc, par exemple, parler de millidegrés Celsius. Voilà, avec le symbole, avec le petit M devant le petit rond et le grand C.
Merci Nathalie. Donc la culture du Celsius.
Ouais.
Eh bien écoutez, je vous propose une pause pour la seconde recette. On se retrouve tout de suite.
Parc Babyland Amiland, 34 attractions.
Non. Maintenant, c'est Parc Winoland.
Parc Winoland ?
Parc Winoland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne.
Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeot. Winoland.fr, Winoland.fr.
Winoland.fr. Winoland, la magie de l'amusement.
En famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Hello, c'est Nuit Incolore sur Infini Radio. Et c'est basique comme ça? Tu peux laisser le « et c'est basique » comme ça?
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Complexe d'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la seconde recette de notre émission spéciale Fête des Mères. Et nous allons voir ensemble cette recette qui est les sablés. Huile d'olive et basilic. Alors on connaissait les sablés sucrés hein, qu'on fait.
Oui.
On a donné plusieurs fois les recettes, chocolat, machin. Là, ça va être à l'huile d'olive et basilic. Donc pour ça, on a besoin de 150 g de farine, 30 g de parmesan en poudre, 7 centilitres d'huile d'olive, 50 g de beurre salé, 50 g de feuilles de basilic. Le mieux, c'est de le prendre frais, surtout qu'en ce moment, on est en pleine saison. Hein, donc, y a pas de... vous pourrez en trouver sur les magasins, dans les magasins, mais sur le marché aussi. Et on aura besoin aussi d'un œuf. Pour le matériel, on aura besoin d'un saladier, d'un couteau, d'un mixeur, d'une plaque allant au four ou d'une feuille de cuisson, bien évidemment, d'un papier film, d'un rouleau, et dans porte-pièces. Donc soyez créatifs, hein, en porte-pièces, ça peut être des cœurs par exemple, mais vous pouvez aussi faire le maman en lettres, hein. Donc bon, pour les plus doués on va dire.
Oui.
Voilà, donc et en porte-pièces, bon, des cœurs, des soleils, des étoiles, enfin bon, il y a plein de choses. Maintenant, il y a tellement de choses qui se font que, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Alors, dans cette recette, vous aurez besoin de 10 minutes de préparation. Donc là, ça va relativement vite. Mais par contre, vous avez une heure de repos. Parce que la pâte sablée, ben, comme la salée et comme la sucrée, il faut qu'elle se repose. Sinon, vous ne pourrez pas la travailler. Et puis, vous aurez 12 minutes de cuisson. Alors, on va déjà mettre dans un saladier et verser la farine. Ensuite, vous allez mettre dans le saladier la farine, le parmesan, le basilic que vous aurez haché. Alors, moi, je préfère le basilic le haché au couteau. Parce que si vous le mettez dans un mixeur, il va rentrer du jus et ça ne sera pas forcément génial. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Vous mélangez bien ces ingrédients. Ensuite, vous allez ajouter le beurre mou, puis l'huile d'olive et vous allez mélanger à nouveau avec vos mains. Moi, encore une fois, hein, les mains, c'est les meilleurs mélangeurs. Une fois que vous avez fait bien un petit peu travailler cette pâte, vous allez ajouter les œufs, bien mélanger et former une boule avec la pâte. Une fois que cette boule est faite, vous la laissez dans le saladier, vous recouvrez toujours d'un film ou d'un linge, c'est comme vous voulez. Mais un film, moi j'aime bien parce que comme ça au moins, on est pas trop mal. C'est hermétique, c'est surtout ça et que ça prend pas d'air. La pâte sablée, si vous mettez pas un film, elle risque de croûter et après c'est moins facile pour la faire travailler après. Voilà, au bout d'une heure, on étale la pâte, donc pour éviter que ça colle sur le plan de travail, alors je vous donne une petite astuce, on pose la boule entre deux feuilles de papier cuisson et on étale avec le rouleau, tout simplement au-dessus, comme ça ne colle pas sur ces deux feuilles. Alors il y a le système avec le film étirable, c'est une galère avec le film étirable, alors qu'avec les feuilles de cuisson au-dessus et en dessous de la pâte, et ben vous avez quelque chose.
Ça colle pas au papier cuisson.
Ça colle pas du tout.
D'accord.
Voilà. Donc voilà. Après vous enlevez le dessus, la feuille du supérieur, pour que vous puissiez faire vos petites emporte-pièces. Ouais. Donc il faut que la pâte elle fasse à peu près 2 mm, hein, grosso modo, pour que vous ayez quelque chose qui se tienne et qui ne soit pas trop que le sablé reste moelleux. Voilà. On peut étaler plus finement, mais après votre sablé va cuire beaucoup plus. Vous mettez à préchauffer votre four à 180 degrés, donc thermostat 6, et vous étalez votre pâte. Et une fois que elle est étalée, vous coupez ou à l'emporte-pièce ou au couteau. Voilà, vous faites une vingtaine à peu près de sablés. Vous les mettez sur une plaque allant au four, bien évidemment, et toujours recouverte d'une feuille de papier cuisson. Voilà, et quand on peut aussi dorer les sablés avec un jaune d'œuf, par exemple. Donc le blanc, vous le garderez pour une meringue. Et vous pouvez aussi, ce que moi j'aime bien faire, c'est avec le jaune d'œuf. Je passe le jaune d'œuf au pinceau sur mes sablés. Et après, avec une fourchette, je le raye. Comme ça, ça fait un peu un peu blanc à la cuisson. Ça fait un peu roussi là où il y a eu jaune. Et là où j'ai passé ma fourchette, ça fait un peu blanc. Voilà, ça fait un effet. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Soyez créatifs, j'ai envie de dire. Voilà, vous enfournez donc les sablés à 180 degrés pendant 12 minutes.
Ça va vite. Hein.
Oui, ça va très très vite. Je dirais même 10 minutes.
Ouais, surveiller, à partir de 10 minutes, surveiller.
Voilà, surveiller, de façon que ça cuise pas. Il faut que vraiment vos sablés restent moelleux. Voilà, vous laissez un peu refroidir avant de les servir dans un joli plat. Voilà, c'est tout simple. Alors, Nathalie, on va pas parler de ce soir de sablé, parce qu'on en avait déjà parlé, mais par contre du basilic.
Oui, le basilic ou basilic romain, c'est une espèce de plante herbacée térophyte de la famille des lamiacées, cultivée comme plante aromatique et condimentaire. Alors, cette plante, elle est parfois appelée basilic commun, basilic aux sauces, herbe royale ou grand basilic. Le basilic commun est largement employé dans la cuisine italienne. D'autres variétés de basilic, elles, sont répandues dans certaines cuisines asiatiques, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Le mot basilic peut parfois désigner d'autres espèces appartenant au genre Ocimum, dans le basilic citron, le basilic de Ceylan ou encore le basilic sacré. Le terme basilic a pour étymologie le mot latin basilicum, qui veut dire royal, formé sur le grec ancien plante royale, lui-même dérivé de basilius. Alors, dans le langage commun, cette espèce a aussi été dénommée basilic officinale, basilic des jardins, herbe royale ou, en Algérie, oranger des savetiers, herbe aux sauces. On appelle encore basilico en Italie, alba assa en Espagne, ça vient de l'arabe andalousien abaga, abac en arabe, réan en kabyle ou réan avec un H en Turquie. Réan se dit aussi en arabe pour désigner le basilic. Par synecdoque généralisante, le basilic est parfois appelé dans le sud de la France pistou ou pesto. C'est le nom de la pâte onctueuse à base de basilic broyé et d'huile d'olive. Pistard signifie pillonner en niçois.
Et oui. On avait déjà parlé du pistou, hein, puisqu'on il me semble bien qu'on a fait des recettes sur pistou et pesto. On avait déjà évoqué cette intonation. Eh bien, écoutez, pour se remettre de ces émotions sur le basilic, parce qu'il faut le savoir quand même qu'il a plusieurs noms, eh bien, je vous propose une pause, et puis on se retrouve de suite pour poursuivre notre émission Fête des Mères.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour poursuivre notre émission spéciale Fête des Mères et avec donc on a fait des petits pains et au lardon et au comté et puis du sablé. Ben, l'accompagnement, ça peut être un œuf cocotte au chorizo, par exemple.
Par exemple.
Voilà, donc on va faire un œuf cocotte au chorizo. Alors, il faut pour ça, il faut 5 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de moutarde, du poivre, du sel, 18 tranches de chorizo, alors des petites, hein, c'est chorizo, c'est pas bien grand. Hein.
Non, c'est pas
donc,
très
épais. Donc 18 tranches, finement, hein, quand même, coupé finement, hein, faut pas non plus... et puis, on aura besoin de 120 grammes de parmesan grappé et 12 œufs. Puisqu'on va faire 2 œufs par cocotte. Et au niveau matériel, on va avoir besoin d'un saladier, de 6 mini cocottes avec le couvercle. Donc, ben, si vous n'avez pas... alors, vous pouvez prendre des ramequins, mais c'est compliqué. Un ramequin, il faut trouver une plaque qui va dessus. Voilà, enfin...
Ouais, parce qu'il faut absolument couvrir.
Oui, à un moment donné, il faudra couvrir.
D'accord.
Donc, pour éviter que l'œuf, en fin de compte, sèche. Tout simplement, et que ça reste un petit peu onctueux à l'intérieur. Donc, utiliser une plaque par-dessus, ça peut être bien si mm-hmm. vous avez des gros ramequins. Et puis, un grand plat allant au four et dans lequel on va pouvoir faire les bains-marie. Pensez qu'il faut compter à peu près 15 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson. Alors, pour commencer, on va déjà préchauffer, là, pour le fait, notre four à 200 degrés, donc thermostat 7-8. Et puis, dans un saladier, on va mélanger la crème, la moutarde, le sel et le poivre. Et puis, on va répartir cette préparation dans nos 6 cocottes individuelles. Et puis ensuite, on va mettre 3 tranches de chorizo coupées donc, en morceaux. Alors, vous pouvez les laisser en tranches, mais vous pouvez aussi les couper en petits dés, tout simplement.
D'accord.
Voilà. Et vous allez rajouter 20 grammes de parmesan râpé, casser 2 œufs à l'intérieur et vous allez fermer la cocotte et la mettre au bain-marie. Donc, si vous n'avez pas de cocotte, en fin de compte, l'astuce, c'est de mettre vos ramequins au bain-marie quand même. Et on va les recouvrir d'une plaque, tout simplement, qui va au four. Donc, et vous aurez votre couvercle de cocotte.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est une nouvelle astuce. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire du bain-marie. Donc, on met de l'eau, mais avant, vous allez mettre vos mini ramequins ou vos mini cocottes à l'intérieur. Vous versez vous les remplissez et après, vous mettez l'eau. Voilà, une fois que vos ramequins, ça évite que vous en mettiez partout, ouais. En fin de compte, et que ça déborde. Parce qu'on a tendance à remplir d'abord le bain-marie et après le mettre et ça déborde. Oui. Donc voilà, donc c'est une astuce qu'on a déjà dit mais qu'il faut bien redire parce que ben on oublie de temps en temps. Et vous allez enfourner 6 minutes dans votre four à 200 degrés et c'est prêt. Voilà.
C'est rapide, 6 minutes. Hein.
Ah, attention, c'est des œufs, il faut que ça reste moelleux. Donc, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps.
Il faut que le jaune reste coulant.
Voilà. Donc, après, si on aime bien un peu plus cuit, vous voulez essayer de cuire un peu plus, mais bon. Il n'y a plus qu'à servir avec les petits pains au lardon
oui.
Et puis le sablé pour faire trempette comme on fait avec les mouillettes aux œufs à la coque. Alors, si votre maman n'aime pas le chorizo, parce que ça arrive,
ouais.
Bien que vous avez des chorizo doux et le chorizo fort, eh ben, vous pouvez le remplacer par exemple du saumon que maman a préféré. Préférable un petit peu plus ou du jambon de pays ou carrément du jambon blanc. Donc choisissez donc le saumon, on le coupe en dés comme le jambon de pays, comme le jambon blanc, on le coupe en petits morceaux en dés et voilà. Et vous pouvez aussi mettre des petites crevettes. Vous mélangez pas tout en même temps, hein, on est bien d'accord.
Sûr, ouais.
Mais vous pouvez aussi mettre des blancs de poulet. Alors les blancs de poulet, il faut qu'ils soient cuits. C'est
oui,
mieux.
Oui, oui.
C'est hein mieux, ouais. Voilà, donc ben, maintenant, vous êtes, soyez créatifs, inventifs, et ben, c'est pour faire plaisir à maman, donc demandez-lui ce qu'elle aimerait bien avoir dedans. Et puis voilà.
Exactement.
Alors, on va continuer nos recettes de spéciales fêtes des mères par un gâteau qui est plein de tendresse pour la plus jolie des mamans. Voilà, présentez-le comme ça, et flattez votre maman, vous allez voir, elle va apprécier. Qui n'aime pas la flatterie ? Alors, c'est un gâteau tendre au chocolat et à l'orange. Alors, vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir à pâtisserie, 150 g de beurre tendre léger, 100 g de sucre en poudre, 60 g de farine, une pincée de sel, 60 g d'orange confite et 3 œufs. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une casserole, de deux saladiers, d'une maryse, d'un fouet et de 6 moules individuels à tarte. C'est des moules à tarte ou alors des... Alors, c'est pas forcément des moules à tarte, hein, des moules qui sont pas très hauts. Mais plutôt individuels, c'est plus sympa. Et puis, c'est à manger, c'est mieux, quoi. À présenter, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous pouvez décorer avec un joli cœur. Enfin, bon, vous éclatez, quoi. Voilà, pensez que pour cette recette, il vous faut 10 minutes de préparation et 6 minutes de cuisson. C'est de l'individuel, donc ça cuit et on veut que ça reste moelleux. Donc, il n'y a pas beaucoup de cuisson. Alors, dans un premier temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés, donc le thermostat 6 à peu près. 6-7, et on va commencer à faire fondre dans le bain-marie, dans un bain-marie, donc une casserole avec un saladier, le beurre et le chocolat. Une fois que tout est fondu, ben vous mélangez, vous retirez votre saladier du bain-marie. Puisqu'on va battre les œufs dans un bol et on va les rajouter dans notre saladier où il y a le beurre et le chocolat. D'accord ? Donc, on mélange au fouet les œufs, le sucre, la farine dans un autre saladier et la préparation qu'on vient de faire, on la mélange à la première préparation, c'est-à-dire le chocolat et le beurre. Une fois que vous avez bien mélangé les deux, il faut que le mélange soit bien homogène. Hein, donc c'est un peu un gâteau moelleux, hein, ce qu'on est en train de faire. Et vous allez rajouter les dés d'orange confite. Voilà, une fois que... Et une pincée de sel pour relever le goût un petit peu de l'orange. Mélangez à nouveau pour obtenir une pâte homogène et vous allez les verser dans la pâte dans les moules à tarte individuelle et vous allez cuire 6 minutes pendant 6 minutes à 180 degrés. Voilà, les gâteaux doivent être restés moelleux, tendres. Donc au niveau de la cuisson, c'est pas la peine de mettre votre couteau dedans parce que vous allez avoir il va ressortir humide parce qu'on veut quand même un gâteau moelleux et tendre. Voilà, il faut vraiment qu'il prenne de la couleur mais qu'il ne soit pas trop cuit. Hein, j'insiste là-dessus. Une fois que vos mini tartelettes sont, enfin vos mini gâteaux sont cuits, vous allez les démouler, les déposer sur un lit de crème anglaise ou encore de soupe à la fraise et vous allez décorer avec un zeste d'orange confite. Voilà, c'est vite fait, c'est facile et c'est super délicieux. Alors, on a parlé de l'orange. Alors là, c'est de l'orange confite qu'on utilise dans notre set. Mais Nathalie, cette orange, allez, tu nous en dis un peu plus sur cette orange.
Oui, alors l'orange, c'est un agrume obtenu à partir de l'oranger. Il s'agit en fait d'une baie modifiée obtenue à partir d'agrumes dont l'écorce est épaissie et durcie. Dans le cas de l'orange, sa pulpe est généralement formée de 11 segments juteux qui fournissent d'importants nutriments et phytonutriments tels que la vitamine C, des huiles essentielles et des flavonoïdes. On distingue principalement deux variétés d'orangers et de fruits, l'orange douce et l'orange amère. Cependant, on peut trouver d'autres oranges de nombreuses variétés différentes, originaires d'Inde, du Vietnam ou du sud-est de la Chine, bien que la plupart de ces variétés soient des mélanges issus de trois espèces principales. Actuellement, c'est un fruit très répandu qui se caractérise par sa teneur élevée en énergie. Il ne faut donc pas s'étonner que le jus d'orange soit présent dans de nombreux petits déjeuners, car il nous aide à commencer la journée avec suffisamment de vitalité.
Bien, merci Nathalie. Ça vaut une petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour une soupe de fraises.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et puis on avait dit avant la pause qu'on allait notre prochain dessert c'était la base la soupe de fraises et donc la base de la soupe de fraises c'est la fraise et Nathalie tu pourrais peut-être nous dire quelque chose sur cette fraise.
Oui, la fraise. C'est un petit fruit rouge issu des fraisiers. C'est une espèce de plante herbacée appartenant au genre Fragaria, qui est la famille des rosacées, dont plusieurs variétés sont cultivées. Alors, la fraise est en termes botaniques un faux fruit, les vrais fruits étant des petits akènes qui pointent à sa surface. Ce petit fruit est botaniquement parlant un faux fruit. Il s'agit en réalité d'un réceptacle charnu sur lequel sont disposés régulièrement des akènes dans les alvéoles plus ou moins profondes. La fraise est donc un polyakène. La fraise fait partie des 6% environ de végétaux qui existent avec une forme mâle et une forme femelle. Elle se présente d'ailleurs sous trois formes, mâle, femelle et combinée. Les fleurs femelles ne portent pas dentaires. On a récemment montré que les gènes qui déterminent le sexe d'un plant de fraisier peuvent être positionnés en plusieurs endroits très différents du génome, lequel s'inscrit dans 56 chromosomes organisés en 7 groupes de 8 chromosomes. À titre de comparaison, l'homme n'a que 46 chromosomes organisés en 23 paires. Les fraises du commerce sont des hybrides cultivés assez éloignés des fraises sauvages, sélectionnés en fonction du goût, de la taille, de la facilité à être cultivés, cueillis, conservés et transportés. En Europe et en Amérique du Nord, les fruits de l'espèce Fragaria versa, le fraisier des bois, sont de petite taille. Ils sont connus et appréciés depuis l'Antiquité par les Romains qui les consommaient et les utilisaient dans leurs produits cosmétiques en raison de leur odeur agréable. Le fraisier est cultivé dans les jardins européens vers le XIVe siècle. En 1740, la ville de Plougastel, qui est près de Brest en Bretagne, déjà productrice de fraisiers des bois, devient le premier lieu de production de cette nouvelle espèce dite fraise de Plougastel. Cette culture devient la spécialité de la commune qui produisait près du quart de la production française de fraises au début du XXe siècle. Une variété légèrement plus petite est obtenue dans le sud de la France à partir de croisements avec des fraisiers nains méditerranéens, moins exigeants en eau, la Garriguette, variété de fraises la plus vendue en France.
En plus, c'est en pleine saison en ce moment. Mais c'est vrai que les fraises des bois, est-ce que tu en as déjà mangé? Oui. C'est un parfum et c'est super agréable.
C'est la plus parfumée. C'est
moi, je kiffe ce parfum et ce goût vraiment de la fraise. Voilà, ben, c'était très intéressant. Merci Nat. Ben, je vous propose de voir la recette maintenant de cette soupe de fraises. Donc, peu d'ingrédients, mais un kilo de fraises quand même, hein. Donc c'est une soupe, donc il en faut pour tout le monde. Un kilo de fraises, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de
sucre glace.
De sucre glace, oui, excuse-moi. Et 2 cuillères à soupe de sucre de jus de citron et 2 cuillères à soupe de marmelade d'orange. Donc la marmelade d'orange amère, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on avait deux sortes d'oranges. On a l'orange qu'on mange ou qu'on fait en jus de fruits et l'orange amère. Ce sont deux. Donc la marmelade, vous la trouvez dans les commerces. Oui. Si vous ne savez pas, vous venez à la maison et je vous en donnerai un petit peu. Voilà, pour le matériel, vous avez besoin d'une passoire, d'un saladier, d'un couteau et d'un mixeur. 15 minutes seront utiles pour cette préparation et c'est tout. Donc, puisqu'on n'a pas de cuisson. Donc, dans une passoire, on va déjà laver les fraises, enlever les queues de ces fraises. On va les couper en morceaux, c'est mieux. Et on va les mettre dans un mixeur avec tous les ingrédients, c'est-à-dire que le sucre glace, le jus de citron, la marmelade d'orange. Et puis, on va mixer le tout. Et voilà, notre soupe, elle est prête. C'est pas plus compliqué de faire une soupe de fraises. Vous la servez très fraîche. Donc cette préparation, elle peut accompagner les gâteaux tendres comme c'est celui qu'on vient de faire, hein, tendre au chocolat et à l'orange, ou d'autres, bien sûr, et puis aussi des glaces. Hein, vous pouvez servir des glaces, puisqu'on va être dans une période chaude. Vous faites des glaces, des sorbets. Amusez-vous à faire des soupes, ou tout simplement sans rien, hein, juste une soupe en dessert, mais une soupe de fraises. C'est très, très, très agréable. Voilà, donc vous voyez, on fait peu de choses, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, de temps pour bien manger et bien faire à manger. Je sais pas moi, qu'est-ce que t'en penses Nathalie? Parce que là, en si peu de temps, on n'a pas fait des grandes recettes, mais on a fait des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont faciles à réaliser. Bon, une prochaine fois, on verra plus de choses plus élaborées. L'autre fois, on a vu le canard à l'orange. Ouais. Bon, c'est plus élaboré. Mais vous avez plein de petites recettes. Allez piocher. Maintenant, on est sur le net. Donc, allez piocher sur le net pour avoir des petites recettes. Écoutez-nous et voyez toutes nos playlists là.
Les podcasts.
Les podcasts, voilà. Merci Nathalie. Les podcasts où vous avez différentes recettes et puis marier les recettes différentes.
Oui, avec... voilà, vous pouvez prendre une entrée sur une émission et puis vous piochez, vous allez en fait dans les podcasts sur le site www.infiniradio.fr, vous allez dans podcast et dans le podcast vous avez Foudan. Voilà, et là vous avez tout en fait, il y a les recettes qui ont été faites pour chaque émission et vous pouvez piocher effectivement une entrée
dans une émission,
un plat dans une autre, un dessert dans une autre, un petit bonus comme la soupe de ce soir où il y a eu d'autres petits bonus dans une autre.
Il y a eu plein de petits bonus, ouais. Et puis après si vous savez pas, vous pouvez toujours nous laisser des messages sur notre mail.
Proposer.
Non mais s'ils ont des questions sur une recette et tout ça, de toute manière c'est Nathalie et Théo qui reçoivent les mails et puis ils me le transfèrent et puis moi je vous y réponds sans aucun problème. Et puis si jamais vous avez envie de faire une recette, encore une fois, n'hésitez pas à nous en faire part.
Exactement.
Et puis là, on a déjà eu des recettes de personnes. C'est vrai que on n'a pas dit le nom de la personne qui nous l'a proposé. Mais ça me donne des idées aussi. Ça me permet de les tester parce que je teste toutes les recettes que je vous apprends. Voilà. Et comme ça, au moins, ça nous permet de renouveler un peu notre... Parce qu'on a vite fait de tourner dans le ronron de nos recettes parce qu'on n'a pas le temps.
Bah c'est ça, puis on est ouvert si les gens veulent par exemple des recettes d'autres pays, d'autres cultures, on peut... mais c'est pas moi qui cuisine, hein, c'est toi Anne, mais tu peux les tester.
Je cuisine assez souvent, je cuisine tous les pays, moi j'ai pas de...
Ou les régions, je pense, on n'a pas fait Kunaman. On l'a pas fait ça.
Ah, Kunaman,
il faudrait qu'on fasse ça.
Alors alors tu vois, non, c'est un dessert que je ne ferai pas, je suis désolée, c'est pas mon trip. Voilà, donc moi
que t'aimes pas?
C'est ça, c'est celui-là, rien que le nom, je ne sais pas le prononcer déjà. Donc, pour moi, c'est trop.
Ah oui, c'est calorique, c'est
trop calorique, copieux. Enfin, voilà, et si je dois faire cette recette... Je dois aussi pouvoir le goûter et je ne goûterai pas. Enfin, j'ai déjà mangé un Kunyaman, là, mais je cours pas après. Voilà, c'est pas mon truc. Mais je vous trouverai d'autres recettes de région. Voilà, j'ai bien entendu ton message, Nathalie. Donc d'autres régions. Si ça pouvait être la Bretagne, ça l'arrangerait bien parce qu'apparemment en Bretagne, elle connaît. Voilà. Non, mais effectivement, on a fait le Nord. Oui. On a fait la Bretagne, de mémoire, puisqu'on a fait des crêpes.
Oui.
On n'a pas fait la Normandie, la Bourgogne non plus. Le Sud, on a fait parce qu'on a fait du pesto et du pistou.
Ouais. On n'a pas fait l'Alsace, je pense.
Si, puisqu'on a fait une recette qu'un de mes clients m'avait donnée et que j'ai testée et qui était super bon. Je ne sais plus, c'était une viande bien spéciale, c'était du lard, mais fumé avec des pommes de terre chaudes, si tu te souviens bien.
Ça devait être un nom alsacien.
Oui, le nom m'échappe, hein, vraiment, excusez-moi. Mais oui, on pourrait, je vais y penser. Oui, tu as raison. Voilà, mais on a encore des émissions à venir et puis à préparer, donc on n'a pas fini de nous entendre. Voilà, mais écoutez, on parle, mais on ne voit pas l'heure arriver et c'est déjà la fin de l'émission.
C'est déjà la fin, ouais.
Voilà, comme disait Nathalie, vous allez pouvoir retrouver toutes nos recettes sur les podcasts et sur Facebook pour les ingrédients des différentes semaines. On va finir par souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans.
Oui.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes aussi délicieuses et faciles à préparer. Voilà, on vous souhaite encore une fois une excellente fête des mères à toutes les mamans du monde. Un bon appétit, une bonne soirée et puis surtout, vous prenez soin de vous.
Oui.
Bonne soirée.
Bonne soirée.